Vous écoutez, on lit pour vous.
Peter Singer. Considérer l'animal comme une marchandise me semble profondément immoral. Propos recueilli par Anulina Savolainen, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO. Les conditions d'existence des animaux d'élevage sont déplorables dans certaines exploitations intensives. Le savoir ne nous empêche pas de manger de la viande. Pourquoi sommes-nous si peu concernés par leur souffrance? Depuis plusieurs décennies, le philosophe australien Peter Singer, parmi les plus influents de sa génération, s'attaque à cet angle mort de la réflexion éthique. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels « La libération animale », paru en 1975, qui reste une référence en matière de réflexion sur les droits des animaux. Votre intérêt pour les droits des animaux et l'éthique alimentaire remonte aux années 1970, lorsque vous prépariez votre thèse de philosophie. Comment est née cette réflexion? Je peux dater très précisément le début de mon intérêt pour l'éthique relative à ce que nous mangeons à un déjeuner avec un étudiant canadien du nom de Richard Keshen. Nous suivions le même cours, qui n'avait rien à voir avec l'alimentation et les animaux, mais portait sur la liberté et la responsabilité. Dans le réfectoire de Balliol College, à l'Université d'Oxford, Royaume-Uni, nous avions le choix entre une salade végétarienne et un plat de spaghettis recouvert d'une sauce brune. Richard a demandé si elle contenait de la viande. Comme c'était le cas, il a choisi la salade. Or, dans les années 1970, les végétariens n'étaient pas nombreux. Richard a donc été le premier à m'amener à réfléchir à ce que je mangeais et aux traitements infligés aux animaux. Jusque-là, je pensais qu'il menait une vie agréable à paître dans les prés. Je ne réalisais pas que la plupart d'entre eux passaient leur vie entière enfermés dans des conditions de surpeuplement indignes et que personne ne se souciait de leur bien-être. Le seul objectif des producteurs était de faire de la viande à moindre coût, ce qui signifiait que ces animaux avaient des conditions de vie abominables. Je me suis alors demandé ce qui pouvait justifier un tel traitement, alors que nous n'avons pas besoin de manger de la viande pour survivre. Dans « La libération animale » paru en 1975 et constamment réédité depuis, dernièrement sous le titre « La libération animale, édition définitive » paru en 2024, vous affirmez que nous avons l'obligation morale de prendre en compte les intérêts des animaux et donc de réduire la souffrance des animaux d'élevage. Pour quelle raison? Je ne prends pas la mise à mort des animaux à la légère, mais je pense néanmoins que la question n'est pas vraiment de savoir si c'est mal de les tuer. La vraie question est la suivante. Pourquoi leur infliger de telles souffrances uniquement parce que nous préférons le goût de leur chair à celui d'un autre aliment, disponible, tout aussi nutritif, et qui n'a causé aucune souffrance? Les animaux sont des êtres sensibles comme les autres. Nous vivons sur la même planète. Nous avons développé l'élevage à très grande échelle. Mais quelle est la vie que nous leur réservons? Si on laissait les vaches paître dans les champs et les poules picorer en plein air, cela serait peut-être tolérable. Mais dans la mesure où on les entasse dans d'immenses hangars bondés, c'est déjà une source de stress. Les poules, par exemple, sont des êtres sociaux, vivant en petits groupes où elles peuvent s'identifier entre elles. Elles savent quelle est leur place dans ce groupe et les agressions sont rares. Mais lorsqu'on entasse 20 000 poules dans un hangar, elles deviennent plus agressives. On veut aussi qu'elles prennent du poids très rapidement, alors que leurs os encore immatures ne peuvent pas supporter ce poids, ce qui les fait souffrir. Plus leur croissance est rapide, plus les bénéfices sont importants pour le producteur. C'est un fait bien documenté et la preuve que nous ne nous soucions pas vraiment de leur bien-être. Toute cette attitude, qui consiste à considérer l'animal comme une marchandise, me semble totalement immorale. Votre action est-elle dictée par vos émotions ou un raisonnement intellectuel? Je dirais que ma motivation est surtout intellectuelle. Lorsque j'ai découvert les conditions de vie des animaux que nous élevons pour notre alimentation, je me spécialisais déjà dans l'éthique, et j'ai donc entrepris de lire ce que disaient les philosophes. Or, dans ce domaine, leur pensée était faible. On connaît l'aveuglement raciste des marchands et des propriétaires d'esclaves, ou le sexisme des hommes dans les sociétés patriarcales. Or, bien des gens ne reconnaissent toujours pas cet angle mort de la réflexion éthique. C'est ce que j'appelle le spécisme. Nous continuons d'accepter l'idée que notre espèce dispose en quelque sorte du droit d'exploiter les membres d'autres espèces de la manière qui lui convient. Je suis persuadé que, dans 50, 100 ou 200 ans, on regardera en arrière et on dira « Bon, d'accord, ils se sont efforcés de vivre une vie digne et éthique, mais s'agissant des animaux, ce qu'ils ont fait est tout simplement épouvantable. » Le monde est-il aujourd'hui plus sensible à la question du bien-être des animaux d'élevage? Je le pense. Il existe aujourd'hui un vaste mouvement de défense des droits des animaux et leurs conditions de vie se sont améliorées dans de nombreux pays, notamment dans l'Union européenne, mais aussi dans certains États des États-Unis qui possèdent une meilleure législation. D'autres évoluent lentement dans ce sens. Mais il existe encore des pays où l'on manque de lois protégeant le bien-être des animaux dans les élevages industriels. Le végétarisme et le véganisme gagnent du terrain, en particulier dans les pays riches. Mais au niveau mondial, la consommation de viande augmente. Quelle serait alors la solution éthique? L'augmentation de la consommation de viande dans le monde s'explique en partie par le fait que de nombreux pays sont aujourd'hui plus prospères qu'il y a 50 ans. Un plus grand nombre de personnes ont les moyens d'acheter de la viande. Il faut évidemment se réjouir que des gens sortent de la pauvreté et aient davantage de choix, mais il est regrettable que cela se fasse au profit de produits qui impliquent une telle souffrance animale. Qu'il y ait davantage d'options véganes est aussi une excellente nouvelle pour la planète parce que le fait d'élever une telle quantité d'animaux contribue de manière significative au dérèglement climatique. La réduction du nombre des animaux d'élevage est un moyen facile de diminuer nos gaz à effet de serre. Cela permettrait de faire également baisser les risques pour la santé publique causés par les virus qui se développent dans les élevages, comme la grippe porcine ou la grippe aviaire, qui s'est déjà propagé à d'autres animaux et, dans certains cas, aux humains. On souffre d'obésité dans certaines parties du monde et de la faim dans d'autres. N'est-ce pas là un terrible échec moral? Sans aucun doute. Le fait que la faim persiste sur la planète est en soi un échec moral, car nous avons assez de ressources pour nourrir le monde entier. Et en réalité, une des raisons pour lesquelles les gens ont faim est que l'on cultive d'énormes quantités de céréales et de soja riches en protéines pour nourrir les animaux. Si nous consommions ces céréales et ce soja directement, il nous faudrait moins de terres cultivables pour nous nourrir. Leur prix pourrait baisser et nous aurions des excédents à distribuer là où c'est nécessaire, ce qui assurerait également une répartition plus équitable de la nourriture sur la planète. La viande in vitro pourrait-elle être une solution? comme il est difficile de convaincre les gens d'arrêter de manger de la viande animale, la viande cultivée pourrait être une solution. Mais cette option est encore rare et plutôt coûteuse. Cette réponse technologique aux problèmes alimentaires est donc encore bien loin de nous. C'était Peter Singer. Considérer l'animal comme une marchandise me semble profondément immoral. Propos recueillis par Anoulina Savolainen, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO.
Pour vieillir en bonne santé, prenez soin de vos muscles. Un texte de Matthew Lees, paru le 5 février 2025 dans La Conversation. Nous aimerions tous vivre longtemps, c'est du moins mon cas. Mais qu'en est-il de la possibilité de profiter du temps qui nous est imparti et de vivre en bonne santé? Au cours du siècle dernier, l'espérance de vie humaine a augmenté de façon spectaculaire pour diverses raisons. Parmi celles-ci, on trouve les progrès réalisés dans les domaines de l'assainissement, de la santé publique, de la nutrition et de la médecine qui ont permis de réduire la mortalité, en particulier chez les jeunes. En conséquence, beaucoup plus de personnes atteignent un âge avancé. Selon Statistique Canada, les Canadiens avaient une espérance de vie de 81,6 ans en 2021, une impressionnante augmentation de 24,5 ans par rapport à 1921. D'ici 2050, on prévoit que le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus aura triplé. L'allongement de l'espérance de vie au cours du 20e siècle et après est une des plus grandes réalisations de l'humanité. Il est toutefois essentiel de faire une distinction entre la durée de vie, le temps écoulé entre la naissance et la mort, et la durée de vie en bonne santé, qui est la partie de la vie où un être humain vit sans incapacité. Les personnes âgées passent de plus en plus de temps en mauvaise santé, ce qui représente un fardeau important sur le plan individuel et de la santé publique. À un âge avancé, la capacité à maintenir un mode de vie indépendant définit en grande partie la qualité de vie d'une personne. Il ne suffit pas de prolonger l'espérance de vie sans tenir compte de la santé. Notre objectif devrait être de réduire au maximum la différence entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. En tentant d'accroître la durée de vie en bonne santé, on remet en question l'idée que les maladies liées à l'âge sont inévitables et ne peuvent être atténuées ou éliminées. L'importance des muscles. Le déclin de la masse, de la force et de la fonction musculaire, connu sous le nom de sarcopénie, constitue un défi majeur pour la santé de la population vieillissante. Cela peut entraîner une déficience fonctionnelle, une perte d'autonomie, des maladies métaboliques et accroître les risques de chute et de fractures. Outre leur rôle dans la posture et la locomotion, les muscles contribuent largement au métabolisme de repos en tant que réservoir de glucose, sucre et de lipides, graisse. Ils représentent également un réservoir important d'acides aminés pendant les périodes de stress catabolique, lors d'une maladie grave, par exemple. Les marqueurs de la santé musculaire à l'admission aux soins intensifs servent à prédire des résultats en matière de santé, tels que le nombre de jours sans ventilateur et la mortalité, et l'âge aggrave les risques. À partir de la 5e décennie de vie, la masse musculaire décroît d'environ 1 % par an et la force d'environ 3 % par an. Ces pertes de masse et de force sont généralement entrecoupées de périodes d'inactivité musculaire, hospitalisation, maladie, etc., qui accélèrent l'affaiblissement. Il suffit d'une diminution relative de la marche, diminution du nombre de pas quotidiens, pendant seulement 2 ou 3 semaines pour entraîner des changements négatifs dans la composition corporelle, la force et la qualité musculaire, la résistance anabolique, capacité à utiliser les protéines alimentaires pour la construction des muscles, et une perturbation du contrôle de la glycémie chez les personnes âgées. Étant donné le rôle fondamental du tissu musculaire dans la santé métabolique générale, le maintien d'une masse et d'une qualité musculaire adéquate revêt une importance particulière pour l'allongement de l'espérance de vie en bonne santé. Préserver la santé musculaire en vieillissant. Le tissu musculaire squelettique possède une grande plasticité. Il se remodèle en fonction des contraintes physiques qui lui sont imposées. Il se développe, hypertrophie, en réponse à l'application de charges externes et disparaît rapidement, atrophie, lorsque ces charges sont retirées. Si vous avez déjà eu un bras ou une jambe dans le plâtre, vous savez ce que je veux dire. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons utiliser la plasticité du tissu musculaire à notre avantage. Dans le groupe de recherche de Stuart Phillips, professeur de kinésiologie à l'Université McMaster, nous étudions les effets de l'exercice et de la nutrition sur la santé des muscles squelettiques humains avec un intérêt particulier pour le vieillissement. Nos travaux ont montré que les exercices de résistance, musculation, même pratiqués de manière sporadique et avec des charges légères, peuvent constituer une stratégie efficace pour compenser les pertes musculaires pendant les périodes de faible activité ou d'inactivité chez les personnes âgées. De plus, ce type d'entraînement peut améliorer la sensibilité du tissu musculaire aux protéines alimentaires et aider à contrer la résistance anabolique. Il peut également rendre les muscles plus aptes à absorber le glucose et réduire ainsi les risques de développer des maladies telles que le diabète de type 2. Les études démontrent que les personnes âgées ont besoin de plus de protéines alimentaires, les briques de base des muscles, que ne le suggèrent les lignes directrices établies. Des travaux récents menés dans notre laboratoire ont révélé que la consommation de protéines de bonne qualité peut améliorer le développement musculaire chez les personnes âgées. La stratégie optimale semble reposer sur une consommation quotidienne de 1,2 à 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel, soit 50 à 100 de plus que ce qui est actuellement recommandé, provenant d'un mélange de sources animales, viande, poisson, produits laitiers et végétales, légumineuses par exemple. Quel que soit votre âge aujourd'hui, vous pouvez constituer l'équivalent métabolique d'un régime d'épargne-retraite en pratiquant régulièrement des exercices physiques et en mangeant suffisamment de protéines de qualité. Vous pourrez ainsi réduire l'écart entre votre espérance de vie et votre espérance de vie en bonne santé, conserver votre indépendance et maximiser votre qualité de vie lorsque vous atteindrez un âge avancé. C'était « Pour vieillir en bonne santé, prenez soin de vos muscles », un texte de Matthew Lees, paru le 5 février 2025 dans La Conversation.
John Irving, Portrait de famille, un texte d'Audrey Martel, paru le 7 avril 2025 dans Les libraires. En 2022, l'auteur canado-américain John Irving faisait paraître The Last Chairlift, son 15e roman, disponible en français depuis janvier 2025, sous le titre Les fantômes de l'Hôtel Jérôme. Renouant après 7 ans d'absence avec ses thèmes fétiches, l'auteur nous amène à la rencontre d'Adam, fils d'une skieuse petite mais puissante, qui découvre la vie auprès de sa cousine lesbienne émancipée, de son beau-père transgenre et d'une panoplie d'autres personnages colorés, sans oublier les quelques fantômes, qui donne son titre à l'ouvrage. À la mi-janvier, je terminais ma lecture du dernier roman de John Irving, Les fantômes de l'Hôtel Jérôme, première incursion pour moi dans l'univers de cet auteur majeur de la littérature américaine. Or, cette première lecture revêtait un caractère particulier, puisque j'avais rendez-vous avec John Irving de passage au Québec. La COVID est malheureusement venue, encore une fois, changer nos plans, et ce qui devait être une rencontre chaleureuse avec l'auteur dans le lobby d'un hôtel montréalais s'est transformé en conférence virtuelle. Malgré la distance, la chaleur et la générosité de l'écrivain transcendent l'écran, tout comme son indulgence quant à mon anglais chancelant. Un livre, plusieurs titres. Pour Irving, découvrir le titre des traductions de ses romans est quelque chose qu'il a toujours apprécié, puisqu'il a lui-même en tête plusieurs titres pour ses œuvres. Ainsi, le roman qui aurait pu s'intituler « Rules for Ghosts »,« Darkness as a Bride » ou encore « Honeymoon on the Cliff » a finalement adopté en version anglaise le titre de « The Last Chairlift » en référence à un passage émouvant se déroulant à la fin de l'ouvrage. Dans la traduction française parue chez Seuil, le livre prend pourtant le titre qu'on lui connaît, « Les fantômes de l'hôtel Jérôme », ce luxueux hôtel d'Aspen que l'auteur a visité à de nombreuses reprises dans sa jeunesse et qui, dans le récit, est peuplé de fantômes. Un roman autobiographique? En lisant « Les fantômes de l'hôtel Jérôme », il m'a semblé y voir de nombreuses ressemblances avec la vie de l'écrivain. J'en suis candidement arrivée à la conclusion que ce livre était certainement son texte le plus autobiographique. Lorsque j'aborde le sujet avec Irving, celui-ci me répond en souriant qu'il est familier avec cette question qu'on lui pose à chacune de ses publications. Il est vrai que l'assise de ses textes, ce qui constitue les premiers chapitres généralement consacrés à l'enfance et à l'adolescence de ses héros, est souvent constitué d'éléments rudimentairement inspirés de sa propre vie. L'histoire s'ancre dans un terrain familier, puis tout change. Ainsi, lorsqu'on le questionne sur la nature autobiographique du roman, Irving se demande de quelle partie on parle. Bien sûr, il y a le flou quant à l'origine familiale, mais tout le reste est différent. Selon lui, si c'était vraiment une autobiographie, ce serait un feuillet de quelques pages absolument inintéressant. Ce qui rend les fantômes de l'hôtel Jérôme aussi pertinents aux yeux de John Irving est toutefois en lien avec un événement récent de sa propre vie. Dans tous les livres de l'auteur, le beau-père est un héros à l'image de Colin Irving, son propre beau-père. Lorsqu'un beau-père est présent dans une histoire de John Irving, celui-ci est plus qu'un chic type, il est héroïque. Et M. Barlow n'y fait pas exception. Ma femme et moi étions à un festival d'écrivains à Key West lorsque nous avons appris que mon beau-père, Colin Irving, était décédé. Il avait 100 ans et ça m'a frappé durement. Mais j'étais tellement content qu'il soit en vie et capable de lire les fantômes de l'hôtel Jérôme parce qu'il savait combien je l'aimais et l'honorais dans mes romans. La perte de l'homme qui a inspiré tant de figures héroïques dans l'œuvre du romancier a donc coïncidé avec la publication de ce dernier livre. J'adore Elliot Barlow et tous les autres personnages qui ne sont pas exactement autobiographiques, mais qui sont d'une manière plus spirituelle, modelés sur lui, me confie John Irving avec émotion. Les sources d'inspiration. Outre la figure du beau-père, les fantômes de l'hôtel Jérôme regorgent de membres de la famille qui entretiennent tous entre eux d'étroites relations, parfois anxiogènes et envahissantes, mais toujours protectrices et pleines d'amour. Chez Irving, la famille, c'est les parents, certes, mais aussi les ex, les conjoints, les amis et leurs amis. Et c'est cette énorme toile familiale qui explique pratiquement à elle seule la longueur du roman, selon l'écrivain. Cette histoire, qui existait depuis près d'une décennie à travers des fragments sur des feuillets épars, dans des cahiers de notes, qui prenaient forme dans des listes de personnages et des lignes du temps, n'a pourtant pas pris plus de 6 ans à écrire. Au moment où j'ai commencé à écrire ce roman, j'avais l'impression de vivre avec ces personnages, vous savez, depuis 8 ou 10 ans. Je savais qui ils étaient. J'en savais plus sur l'endroit où ils se retrouveraient que sur l'endroit où je devais commencer, m'a-t-il confié. Une fois lancé dans l'écriture en décembre 2016, Irving n'a donc eu qu'à se replonger dans ses souvenirs de skieur et dans son enfance au New Hampshire pour rédiger ses quelques 900 pages se déroulant sur près de 80 ans. J'avais écrit les 3 ou 4 derniers chapitres du roman avant de commencer, parce que j'écris toujours en me dirigeant vers une fin. Ce n'est pas nouveau, mais dans ce cas-ci, je connaissais si bien l'histoire parce que quand vous avez des personnages qui font partie d'une famille aimante et que cette famille est à l'image de celle d'Adam, eh bien, vous devez savoir ce qui va leur arriver avant de commencer. Et vous voyez, savoir ce qui va arriver à Nora révèle tout sur la façon dont Nora se comporte en tant qu'enfant et jeune femme. Questionné sur l'omniprésence des personnages queer dans cette histoire, Irving explique que cette sensibilité fait partie de lui depuis toujours. Le respect des personnages queer est aussi ancien et ancré dans ma propre famille que mon soutien aux droits des femmes et à l'avortement. Un rôle d'allié qui lui vient sans doute de sa mère, infirmière dans un service de planning familial, mais aussi de son frère et de sa sœur, tous deux homosexuels, qui lui ont malgré eux fait découvrir la discrimination, voire la haine dont il pouvait être victime. Écrire à 83 ans. Et écrire à 83 ans, ça change quoi? Selon Irving, pas grand-chose. Déjà à l'adolescence, alors que ses camarades affectionnaient les écrits de Faulkner et de Hemingway, Irving se passionnait pour les romans du 19e siècle. Je pourrais aussi bien dire que j'étais déjà démodé quand j'étais adolescent. Alors qu'il a toujours admiré Melville, Dickens, George Eliot, Flaubert, il a maintenant l'impression d'y être vraiment, concluant en riant, vous pourriez dire qu'à 80 ans, je ne suis pas plus démodée que je ne l'étais, n'est-ce pas? C'était John Irving, Portrait de famille, un texte d'Audrey Martel, paru le 7 avril 2025 dans Les libraires.
Deux chefs se mettent à table pour la bonne cause. Propos recueillis par Agnès Bardon, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO. Le sens des responsabilités, une créativité débordante et la volonté de mettre la gastronomie au service d'un monde plus vert. Telles sont quelques-unes des motivations des chefs Moreau Colagreco, chef du Mirazur à Menton, France, et Daniel Hum, chef de l'Eleven Madison Park à New York, États-Unis, tous deux étoilés par le guide Michelin. En tant qu'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, il s'emploie à sensibiliser le public aux répercussions considérables qu'ont nos choix alimentaires sur notre santé et celle de la planète. En tant que chef, et chacun à votre manière, vous vous engagez à promouvoir des pratiques alimentaires durables, qu'il s'agisse de la cuisine végane à l'Elephant Medicine Park ou du recours à des produits locaux et de saison au Mirazur. Comment Avez-vous pris conscience de l'impact direct de notre alimentation sur la protection de la planète? Mauro Colagreco. C'est une question de bon sens. Tout montre que notre système alimentaire a un impact sur notre planète et notre santé, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'industrie, des déchets et de la pollution. Il ne tient qu'à nous de changer de modèle. Notre alimentation est un vecteur puissant qui peut désormais faire partie de la solution. C'est ce que nous démontrons au Mirazur, où l'engagement sociétal est très fort grâce à une gastronomie plus circulaire. En deux décennies, notre cuisine a transformé le restaurant en projet agricole en prise directe avec la terre et engagé dans la préservation des variétés locales, parfois en voie de disparition. Nous n'utilisons plus de plastique à usage unique, ce qui a profondément changé notre façon de travailler. En fin de compte, nous voulons faire prendre conscience du fait qu'en choisissant ce que nous mangeons, nous choisissons le monde dans lequel nous voulons vivre. Daniel Homme. Cela faisait des années que j'étais spectateur des problèmes de notre système alimentaire, en particulier la baisse de qualité et de disponibilité de certains ingrédients. Mais je pense que ma prise de conscience a vraiment fait son chemin pendant la pandémie de COVID-19, notamment quant à la manière dont notre secteur d'activité pouvait avoir un impact concret. La fermeture de l'Eleven Medicine Park nous a donné l'occasion de faire une pause, de repenser notre menu et ce que nous voulions représenter en tant que restaurant. Bien que je ne sois pas végane ou même anti-viande, dans ma vie personnelle ou dans ma philosophie culinaire, je sais que l'élevage industriel contribue de manière importante au changement climatique et à l'appauvrissement de la biodiversité. Cela signifie que la société doit adapter et redéfinir ses priorités dans sa relation avec la viande. Je considère en quelque sorte que des restaurants comme le Mirazur et l'Eleven Medicine Park ouvrent la voie de la gastronomie haut de gamme qui finira par se généraliser, et nous avons donc la responsabilité de promouvoir nos idées dans leur forme la plus radicale. Pour nous, cela s'est traduit par la création d'un menu gastronomique exclusivement constitué de plantes. La sensibilisation à cette question progresse-t-elle? Que pouvons-nous faire pour renforcer l'éducation et l'alimentation responsable? Mauro Colagreco. Les mentalités évoluent, et il devient de plus en plus évident que nous devons adopter des comportements alimentaires plus responsables. La véritable difficulté consiste à impliquer toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur en dépassant les intérêts économiques individuels. En tant que chef, notre rôle est d'éduquer, de former et d'informer par tous les moyens possibles, qu'il s'agisse des enfants, des jeunes chefs, des clients, des partenaires, des institutions, etc. Aujourd'hui, les chefs sont devenus des figures incontournables et nous devons montrer l'exemple pour que les citoyens comprennent les conséquences de nos choix alimentaires. Nous devons communiquer sur la saisonnalité, les différentes méthodes de production et plus généralement sur la nécessité d'une consommation plus responsable, d'autant plus qu'il est plus facile d'évoluer qu'il n'y paraît. Par exemple, nous pouvons sensibiliser les enfants à la fraîcheur et à la maturité des ingrédients en cuisinant avec eux à la maison. Cette transmission culturelle est très importante. La cuisine doit rester un héritage culturel transmis de génération en génération pour que chacun devienne un consommateur éclairé. C'est précisément le programme éducatif que nous mettons en place suite à l'appel que j'ai lancé lors de la conférence de Cali, Colombie, sur la biodiversité, COP16, qui s'est tenue en automne dernier pour soutenir les jeunes générations tout au long de leur scolarité, afin qu'elle puisse faire des choix éclairés. Nous lançons actuellement un programme pilote, Seeds for the Future, Graines du futur, en collaboration avec le Programme sur l'homme et la biosphère de l'UNESCO, afin de fournir aux écoles et aux établissements d'enseignement les outils nécessaires à la réalisation de cet objectif. Daniel Hum. L'alimentation responsable est incontestablement devenue un sujet de discussion, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que nous mangeons et la manière dont nous le faisons sont devenus étrangement politisés, en particulier les débats sur la cuisine végétarienne. Si nous voulons progresser, nous devons aborder les problèmes et les solutions comme étant universels, parce qu'ils le sont. Chacun a droit à une alimentation nutritive et chacun sera affecté par l'évolution du climat. Les mesures quotidiennes que nous pouvons prendre sont assez simples et ces petits changements peuvent avoir une grande influence, qu'il s'agisse de manger un repas végétarien par jour, d'incorporer davantage d'ingrédients de saison dans ses plats ou d'acheter des produits locaux. Dans de nombreuses parties du monde, les gens mangent de manière responsable depuis des milliers d'années, grâce à des pratiques agricoles régénératrices et à une cuisine fondamentalement axée sur les plantes. Je pense donc qu'il est important d'intégrer ces cultures alimentaires à la pédagogie de l'alimentation. Il est important d'innover, de découvrir de nouveaux ingrédients et de nouvelles technologies, comme la fermentation de micro-algues pour obtenir de l'huile de cuisson. Mais j'ai trouvé beaucoup d'inspiration dans mes récents voyages en Grèce, en Inde et au Japon, où les bases de la cuisine sont façonnées par l'environnement local. Vous écoutez « Deux chefs se mettent à table pour la bonne cause », propos recueillis par Agnès Bardon, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO. Les campagnes sur les réseaux sociaux peuvent-elles être un moyen de sensibilisation? Mauro Colagreco. Je pense que beaucoup de choses ont déjà changé grâce aux réseaux sociaux. C'est le moyen le plus accessible pour atteindre un large public et s'en servir pour promouvoir l'alimentation responsable serait une grande chance. La vraie question est donc de savoir comment rendre notre message plus percutant afin d'encourager de manière positive et responsable une génération souvent submergée d'informations contradictoires. Daniel Hum. Sans aucun doute. Que cela nous plaise ou non, c'est ainsi que la plupart des gens s'informent de nos jours. Plus nous montrerons que l'alimentation responsable est délicieuse, facile à mettre en œuvre et qu'elle fait partie de notre vie de chef, plus d'autres personnes feront des choix positifs dans leur vie. En janvier dernier, vous avez co-organisé un dîner public composé de plats à base de plantes. Quel était l'objectif de cette initiative? Mauro Colagreco. Avec Daniel, nous souhaitions collaborer à nouveau depuis longtemps. C'est un ami de longue date et nous partageons un engagement profond en faveur de pratiques alimentaires plus responsables. J'admire son travail et tous les deux, nous montrons qu'il existe toujours d'autres moyens de mieux nourrir la planète. L'idée derrière ces repas était de souligner que la biodiversité commence dans nos assiettes. Daniel Hum. Mauro et moi partageons beaucoup de choses en matière de philosophie culinaire et je suis très inspiré par tout ce que Mauro réalise au Mirazur. À bien des égards, nos restaurants ont suivi des voies parallèles et ce mois de janvier m'a semblé être le moment idéal pour les réunir. L'année dernière, j'ai eu l'honneur de rejoindre Mauro en tant qu'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. Cette collaboration a donc été l'occasion de mettre en lumière la mission de l'UNESCO ainsi que l'incroyable potentiel de la gastronomie à base de plantes. Mauro Colagreco, vous avez fait partie de la délégation de l'UNESCO à la COP16 qui s'est tenue en Colombie en octobre 2024. Quels sont les principaux enseignements que vous tirez de cette expérience? La COP16 a été une expérience fantastique et profondément enrichissante. Nous avons organisé un dîner responsable pour sensibiliser à l'importance de la préservation de la biodiversité et du patrimoine culinaire local. J'ai pris la parole lors de la Journée mondiale de l'alimentation pour réaffirmer qu'une gastronomie plus respectueuse peut nourrir une population croissante sans épuiser la planète. En changeant la façon dont nous produisons nos aliments, nous transformons nos régimes alimentaires, notre société et, en fin de compte, nos valeurs. Cette tribune exceptionnelle m'a également permis de lancer un appel à l'action concrète pour la création d'un programme éducatif mondial. Seeds for the Future, que j'ai mentionné précédemment, en collaboration avec une réserve de biosphère de l'UNESCO située en France, avec l'objectif de l'étendre à l'échelle internationale. Grâce à une série d'outils pédagogiques, d'ateliers et d'activités pratiques, nous espérons que ce programme contribuera à promouvoir la diversité agricole, les produits locaux et saisonniers, l'agriculture régénératrice, la pêche durable et la sensibilisation au gaspillage alimentaire et à l'utilisation du plastique dans les écoles. En donnant aux enfants la possibilité de faire de meilleurs choix alimentaires au quotidien, nous les transformons en gardiens de la biodiversité. Daniel Hum, vous avez lancé Rethink Food, une initiative qui distribue des repas aux personnes défavorisées à New York. À une échelle plus large, comment pouvons-nous lutter contre l'insécurité alimentaire? Il s'agit d'une vaste question. Et les solutions impliquent un grand nombre d'éléments qui se recoupent. Toutefois, certains des domaines que je considère comme les plus importants consistent à encourager l'agriculture durable, à soutenir les économies agricoles locales et à préserver la biodiversité et les pratiques culturelles ancestrales. C'est la raison pour laquelle j'ai été tellement inspiré par mon travail avec l'UNESCO et par le programme sur l'homme et la biosphère. Pour nourrir le monde, il faut aider les populations à cultiver des aliments et à créer des industries en harmonie avec leur environnement local. En tant qu'ambassadeur de bonne volonté, comment voyez-vous votre implication future auprès de l'UNESCO? Mauro Colagreco. Je suis très honoré par cette fonction d'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour la biodiversité qui me remplit d'espoir et d'énergie. Avec Relais et Châteaux, l'Association mondiale d'hôtellerie dont je suis vice-président, nous nous sommes engagés à atteindre 12 objectifs de développement durable en partenariat avec l'UNESCO. Nous développons également un programme pilote visant à faire des chefs de notre réseau des gardiens de la biodiversité locale en promouvant les réserves de biosphère les plus proches. Enfin, à quelques kilomètres de mon restaurant Mirazur, dans la ville de Sospel, dans le sud de la France, nous travaillons sur un projet ambitieux qui associera alimentation, agriculture et éducation. Participer à cette initiative me fait croire en un avenir meilleur pour notre planète et nos enfants. Daniel Hum. En tant qu'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation alimentaire, je me suis récemment engagé à promouvoir la publication du rapport mondial de suivi sur l'éducation, GEM, de l'UNESCO en mars 2025, qui est axé sur la nutrition. Je suis impatient de visiter et de mettre en lumière d'autres sites de la biosphère et du patrimoine mondial de l'UNESCO. J'espère également acquérir et partager davantage de connaissances sur la manière dont nos choix alimentaires quotidiens peuvent avoir un impact sur la préservation de la biodiversité, freiner le changement climatique et contribuer au maintien de traditions culturelles inestimables. Je suis également ravi de participer au projet de l'Atlas international du patrimoine alimentaire de l'UNESCO, qui met en évidence les liens fondamentaux de l'alimentation avec le patrimoine culturel immatériel. Avec Moreau, nous soutenons la communication de l'UNESCO sur la biodiversité et nous espérons, tous deux, participer au prochain sommet de la COP sur le climat qui se tiendra à Belém, au Brésil, en novembre 2025. Enfin, je vais publier un livre pour enfants, Daniel's Dream, le rêve de Daniel, car j'ai à cœur de transmettre ma passion et mes valeurs aux adultes de demain. C'était Deux chefs se mettent à table pour la bonne cause, propos recueillis par Agnès Bardon, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO.
Faut-il relire Émile Zola, un texte d'André Lavoie paru le 23 avril 2025 dans Le Devoir. Certains auteurs semblent immortels, d'autres sombres dans l'oubli. Après un temps, qu'en reste-t-il? Le Devoir revisite un de ses écrivains avec l'aide d'admirateurs et d'observateurs attentifs. Émile Zola, 1840-1902, vénérait Victor Hugo et on le comparait à Honoré de Balzac. Celui qui compte parmi les écrivains français les plus traduits dans le monde a exercé de nombreux métiers, dont journaliste et critique d'art. Or, Le Romancier, La Bête humaine, Le Ventre de Paris, ou le pamphlétaire J'accuse, ne poursuivaient souvent qu'un but, radiographier la France de son temps, quitte à semer la terreur. « J'accepte le verdict de l'avenir », affirmait Émile Zola. Celui qui a goûté au succès ignorait à quel point son œuvre résisterait au temps. On ne compte d'ailleurs plus les adaptations cinématographiques de ses romans. Pas moins de 6 de Thérèse Raquin, 1867, et 3 de Germinal, 1885, comme si la France du 19e siècle offrait un reflet juste et cruel de notre époque. Or, la cruauté, celle des bas-fonds, l'Assommoir, 1877, ou des sommets du pouvoir, l'argent, 1891, en passant par les lieux de pèlerinage, Lourdes, 1894, il la scrutait sous tous les angles. Fils d'un ingénieur d'origine italienne, il traitait de manière méticuleuse chacun de ses sujets, accumulant les visites et les recherches. On a dit d'Émile Zola qu'il était sensible à la misère humaine parce qu'il l'a connue après le décès de son père en 1847, criblé de dettes, ce qui a forcé sa mère à quitter Aix-en-Provence pour s'installer à Paris. Il ira la rejoindre en 1858. Or, cet ami du peintre Paul Cézanne a tout fait pour en sortir, multipliant les boulots, dont chez Hachette, déjà une imposante maison d'édition. Pendant quelques années, il exercera un métier équivalent à celui d'attaché de presse, établissant une foule de contacts qui l'aideront plus tard dans sa carrière d'écrivain. Succès un jour, succès toujours. Tout comme Balzac avec sa comédie humaine, Émile Zola entreprend un grand cycle littéraire, Les Rougon-Macquart, 20 romans écrits entre 1871 et 1893. La notoriété ne sera pas immédiate, mais la parution de L'Assommoir marque un tournant, faisant de Zola un auteur désormais capable de vivre de sa plume. Sa description impitoyable des ravages de la misère, dont ceux de l'alcoolisme, suscite déjà un malentendu qui le réduit à un chantre des classes populaires alors que l'autre moitié de son œuvre constitue une critique parfois assassine de la haute bourgeoisie, des milieux financiers ainsi que politiques. Loin d'être aveuglé par les charmes de la capitale, Zola en explore les recoins sombres et observe la révolution architecturale haussmannienne impliquant la destruction complète de plusieurs quartiers, dont certains étaient restés figés depuis le Moyen Âge. C'est aussi cela que Zola dénonce ce qui le rend prémonitoire, selon Véronique Nockert, professeure de littérature à l'UQAM. Il a vu les dérives de la spéculation financière, le capitalisme à tout craint, et nous y sommes toujours, précise cette spécialiste de l'œuvre de celui qui n'a jamais été un Parisien pur jus. Selon Véronique Nockert, le lecteur d'aujourd'hui doit se détacher de la vision glauque de son univers, héritée en partie de son livre le plus connu, Germinal, une description méticuleuse de la vie des mineurs du nord de la France, mais qui ne devrait surtout pas être réduite à cela. Dans La Curée, 1871, un roman d'une grande actualité, il montre à quel point le mariage est une transaction économique dont la femme est à la fois l'objet et la victime, mais il aborde aussi le thème de la fluidité de genre, et ce, bien avant Judith Butler, dans son essai « Gender Trouble » 1990. Zola démontre à quel point le genre est culturel. Son côté redresseur de tort reste tout de même collé à son image. Lui qui a été cristallisé par sa défense spectaculaire du capitaine Alfred Dreyfus le 13 janvier 1898, ce qui lui a valu plus tard menace de mort et exil temporaire à Londres. Dreyfus était faussement accusé de trahison par l'armée française, et le plaidoyer de Zola, intitulé « J'accuse » et publié à la une du journal L'Aurore, interpellait directement le président de la République, Félix Faure, 1841-1899. Cette prise de parole dénonçant, au passage, l'antisémitisme, a depuis valeur de symbole pour les artistes et les intellectuels qui prennent la plume pour décrier les injustices. Mais ces romans peuvent procurer le même effet transcendant, notamment sur Clive Thompson, professeur à l'École de langue et de littérature de l'Université de Guelph, en Ontario. En 1966, je commençais mes études en littérature française à l'Université de Toronto. Je venais d'un milieu agricole assez pauvre du sud de l'Ontario, raconte celui qui s'exprime dans un français délicieux. J'étais entouré de gens riches et on me le faisait savoir. Alors, la lecture de L'Assommoir, ce fut une révélation, un choc, car j'allais développer une conscience politique. Cette première lecture de Zola allait le conduire jusqu'au doctorat avec l'un des plus grands spécialistes de l'auteur, Henri Mitterrand, responsable de l'édition de ses œuvres dans la Pléiade, un homme brillant, charmant, venant lui aussi d'un milieu modeste. Tout comme Véronique Nockert, Clive Thompson considère que l'on fait fausse route en réduisant les romans de Zola à des portraits du prolétariat. La société du spectacle. On ne parle pas suffisamment de l'imaginaire de Zola, et Henri Mitterrand évoquait même ses fantasmes, affirme Clive Thompson. Un roman comme Nana, 1880, décrit les bordels, le milieu de la prostitution, mais l'écrivain puise aussi dans la littérature de l'Antiquité. Et pour ce livre, contrairement à son habitude, il a demandé à un ami d'observer à sa place ce qui se passait dans les maisons closes, car c'était un homme pudique. Ce qui ne l'a pas empêché d'avoir une vie sentimentale assez complexe. Marié à Alexandrine Mellé, il a aussi eu deux enfants avec sa maîtresse, Jeanne Rosereau, autrefois la bonne du couple. Vivre à Médan lui offrait une certaine distance entre ces deux foyers. Si plusieurs ne voient dans Nana qu'un roman sulfureux, Guillaume McNeil-Artaud, professeur de littérature au Cégep de Sainte-Foy, considère que ce livre a beaucoup à nous apprendre sur notre société, celle du divertissement. Il fait un portrait de l'industrie du spectacle qui émerge à partir de 1860 à travers la figure de Nana qui, disons-le, n'a aucun talent artistique, mais est une star. Elle annonce en quelque sorte l'exhibitionnisme actuel des réseaux sociaux. En fait, c'est un roman sur le star system. Certains diraient sans doute que Nana annonçait le phénomène de la télé-réalité. Guillaume McNeil-Arteau s'en amuse, précisant que Zola observait à la fois son monde et les germes de celui qui sera le nôtre. Il raconte à quel point plusieurs de ses étudiants, à qui il enseigne dans les environs des grands centres commerciaux de Québec, s'étonnent d'apprendre que Zola a écrit le premier roman sur les grands magasins avec « Au bonheur des dames » 1883. « Je capte immédiatement leur attention », dit-il en riant. Derrière le caractère visionnaire de son œuvre et l'étiquette de défenseur de la veuve et de l'orphelin, Émile Zola fascine tout autant qu'il déroute, selon Véronique Nockert. Avant Freud, il avait pressenti que nous étions habités par quelqu'un d'autre que nous-mêmes, une bête humaine ou le fameux « c'est plus fort que moi ». On ne dit pas assez à quel point Zola est un véritable précurseur de la psychanalyse. Ses premiers amants ne l'avaient pas gâté. Trois fois, elle s'était crue prise d'une grande passion. L'amour éclatait dans sa tête comme un pétard dont les étincelles n'allaient pas jusqu'au cœur. Elle était folle un mois, s'affichait avec son cher seigneur dans tout Paris. Puis, un matin, au milieu du tapage de sa tendresse, elle sentait un silence écrasant, un vide immense. Extrait de La Curée d'Émile Zola. C'était toujours la même voix vinaigrée, mais à présent elle grattait si bien le public au bon endroit qu'elle lui tirait par moments un léger frisson. Nana avait gardé son rire qui éclairait sa petite bouche rouge et luisait dans ses grands yeux d'un bleu très clair. À certains vers un peu vifs, une friandise retroussait son nez dont les ailes roses battaient, pendant qu'une flamme passait sur ses joues. Elle continuait à se balancer, ne sachant faire que ça, et on ne trouvait plus ça vilain du tout. Au contraire, les hommes braquaient leurs jumelles. Comme elle terminait le couplet, la voix lui manqua complètement. Elle comprit qu'elle n'irait jamais au bout. Alors, sans s'inquiéter, elle donna un coup de hanche qui dessina une rondeur sous la mince tunique, tandis que, la taille pliée, la gorge renversée, elle tendait les bras. Des applaudissements éclatèrent. Tout de suite, elle s'était tournée, remontant, faisant voir sa nuque où des cheveux roux mettaient comme une toison de bête, et les applaudissements devinrent furieux. Extrait de Nana d'Émile Zola. C'était « Faut-il relire Émile Zola ?» un texte d'André Lavoie, paru le 23 avril 2025 dans Le Devoir.